Le journal de George Fox, 1661-1666, prison du château de Scarborough, page 1-2-3-4. D'après un tableau de ce Peter Lely, exposé au Swarthmore College, Pennsylvanie, vol. Illy et ceux qui en auront amené beaucoup à la justice brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Daniel 12-3. Cette année-là, plusieurs amis furent poussés à aller au-delà des mers pour publier la vérité dans des pays étrangers. John Stubb, Henry Fell et Richard Kostrop furent poussés à se diriger vers la Chine et le pays du prêtre Jean, l'Inde, mais aucun maître de navire ne voulut les prendre. Au prix d'un immense effort, ils obtinrent un mandat du roi, mais la Compagnie des Indes orientales trouva des moyens de s'y soustraire, et les maîtres de ces navires refusèrent de les embarquer. Ils allèrent alors en Hollande, espérant y trouver un passage, mais n'en trouvèrent pas davantage. Ensuite, John Stubb et Henry Fell prirent un navire en partance pour Alexandrie en Égypte, ayant l'intention de continuer de là par les caravanes. Pendant ce temps, Daniel Bake, qui devait aller à Smyrne, Grèce, persuada Richard Kostrop de l'accompagner contre sa propre liberté, et durant la traversée, Richard tomba malade et D. Bake le laissa malade dans le navire où il mourut. Mais Bake, cet homme au cœur dur, perdit ensuite à son tour sa propre condition. John Stubb et Henry Fell arrivèrent avec succès à Alexandrie, mais ils n'y furent pas longtemps avant que le consul anglais ne les en bannisse. Pourtant, avant de partir, ils y avaient dispersé beaucoup de livres et de papiers qui ouvrirent aux Turcs et aux Grecs les principes et la voie de la vérité. Ils donnèrent le livre intitulé « La force du pape brisé » à un vieux frère pour qu'il le donne ou l'envoie au pape. Quand le frère eut lu ce livre, il se frappa la poitrine de la main et confessa « Ce qui y est écrit est la vérité ». Mais dit-il, si je l'avouais ouvertement, on me brûlerait. John Stubb et Henry Fell, n'étant pas autorisés à aller plus loin, retournèrent en Angleterre et revinrent à Londres. John eut une vision selon laquelle les Anglais et les Hollandais, qui s'étaient ligués pour leur refuser un passage sur leur navire, deviendraient ennemis les uns des autres, et il en fut ainsi. Après être resté quelque temps à Londres, je sentis une impulsion d'aller visiter les amis dans l'Essex. J'allai à Colchester, où j'eus de très grandes réunions, et de là à Coggeshall, non loin de là se trouvait un prêtre convaincu, et j'eus une réunion dans sa maison. Ainsi, après avoir voyagé un peu dans ces régions en visitant les amis dans leurs réunions, je revins assez vite à Londres. Là, je trouvai un grand service pour le Seigneur, car une large porte était ouverte, beaucoup affluait à nos réunions, et la vérité du Seigneur se répandit puissamment cette année-là. Pourtant, les amis eurent une grande peine et un travail intense, parce que les gens grossiers étaient devenus si oppressifs à cause du soulèvement des partisans de la monarchie peu auparavant. Mais la puissance du Seigneur dominait tout, et en elle les amis avaient la victoire, bien que nous ayons eu non seulement ces souffrances au dehors, mais aussi des souffrances au dedans du fait de John Perrot et de sa compagnie, qui écoutaient un esprit d'illusion et tentaient d'introduire parmi les amis cette pratique mauvaise et inconvenante de garder son chapeau pendant les prières publiques. Les amis lui en avaient parlé, ainsi qu'à beaucoup de ses partisans, et je leur avais écrit à ce sujet. Mais au contraire, lui et quelques autres se fortifièrent dans leur opposition aux amis sur ce point. C'est pourquoi, sentant le jugement de la vérité s'élever contre cela, je fis paraître les lignes suivantes comme avertissement à tous ceux qui étaient concernés. Quiconque est infecté de cet esprit de John Perrot périra. Observez leur fin et la sienne, eux qui se sont tournés vers ces choses extérieures et les discutent, et vers ce qui n'est pas convenable. Tout cela est pour un jugement perpétuel et doit être balayé et nettoyé hors du camp des élus de Dieu. Ceci est écrit à cet esprit qui s'est mis à disputer de ce qui est en bas le principe pourri des anciens rentés, s'étant éloigné de la puissance invisible de Dieu, dans laquelle est la communion éternelle. Ainsi beaucoup sont devenus comme le blé sur le toit, et comme les figues hors saison, et maintenant ils clament et parlent contre ceux qui sont dans la puissance de Dieu. Oh, considérez! La lumière et la puissance de Dieu passent sur vous tous et vous laissent dans une nature d'irritation, hors de l'unité qui est dans la lumière, la vie et la puissance éternelle de Dieu. Considérez cela avant que le jour ne vous soit ôté, et prenez garde que votre mémoire ne soit pas arrachée d'entre les justes. George Fox. Parmi les exercices et les troubles que les amis eurent de l'extérieur, il y en eut un concernant les mariages des amis, qui étaient parfois remis en question. Cette année-là, il arriva qu'une affaire fut jugée aux assises de Nottingham au sujet du mariage d'un ami. Voici le cas. Quelques années auparavant, deux amis avaient été unis en mariage parmi les amis, et avaient vécu ensemble comme mari et femme environ 2 ans. Puis l'homme mourut, laissant sa femme enceinte et laissant un patrimoine en terre tenu en copyhold. Quand la femme eut donné naissance à leur enfant, le jury décida que l'enfant était héritier des terres de son père, et l'enfant fut en conséquence reconnu. Ensuite un autre ami épousa la veuve. Après cela, Un homme qui était proche parent de son premier mari intenta une action contre l'ami qu'il avait épousé en dernier, s'efforçant de les déposséder, de priver l'enfant de l'héritage et de prendre lui-même possession des terres, comme héritier le plus proche du premier mari de la femme. Pour y parvenir, il s'efforça de prouver que l'enfant était illégitime, alléguant que le mariage n'avait pas été conforme à la loi. En exposant la cause, l'avocat du demandeur employa des paroles inconvenantes au sujet des amis, disant qu'ils s'étaient mis ensemble comme des bêtes brutes, avec d'autres expressions mauvaises. Après que les avocats des deux parties eurent plaidé, le juge Archer prit l'affaire en main et l'expliqua, leur disant qu'il y avait eu un mariage au paradis quand Adam prit Ève et qu'Ève prit Adam, et que c'était le consentement des parties qui faisait le mariage. Et pour les Quakers, dit-il, ils ne connaissaient pas leurs opinions, mais ils ne croyaient pas qu'ils se mettaient ensemble comme des bêtes brutes, comme on l'avait dit d'eux, mais comme des chrétiens, et par conséquent, ils croyaient que le mariage était légal et que l'enfant était l'héritier légitime. Et pour mieux satisfaire le jury, il leur apporta un cas en ce sens. Un homme faible de corps et alité avait le désir en cet état de se marier et déclara devant témoins qu'il prenait telle femme pour épouse, et la femme déclara qu'elle prenait cet homme pour mari. Ce mariage fut ensuite mis en question, et dit le juge, tous les évêques conclurent que c'était un mariage légal. Alors le jury rendit son verdict en faveur de l'enfant de l'ami et contre l'homme qui aurait voulu priver l'enfant de son héritage. Vers ce temps-là, les serments d'allégeance et de suprématie furent proposés aux amis comme un piège, car on savait que nous ne pouvions pas jurer, et ainsi beaucoup furent emprisonnés et beaucoup inculpés. À cette occasion, les amis publièrent imprimés les fondements et raisons pour lesquels ils refusaient de jurer, et outre cela, je fus poussé à émettre les quelques lignes suivantes, à remettre au magistrat le monde dit « Embrasse le livre », mais le livre dit « Embrasse le fils de peur qu'il ne s'irrite », et le fils dit « Ne jurez pas du tout, mais tenez-vous au oui et au non dans toutes vos communications, car tout ce qui va au-delà vient du mal ». Encore le monde dit « Mets ta main sur le livre », mais le livre dit « Manie la parole », et la parole dit « Ne manie pas les traditions, ni les inventions, ni les rudiments du monde ». Et Dieu dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, lui qui est la vie, la vérité, la lumière et le chemin vers Dieu ». George Fox, comme il y avait beaucoup d'amis en prison dans le pays, Richard Robeson et moi rédigâmes un écrit à leur sujet et le fîmes remettre au roi, afin qu'ils comprennent comment ces officiers agissaient envers nous. Il était formulé ainsi pour le roi. Ami, toi qui es le principal gouverneur de ces dominions, voici une liste de quelques-unes des souffrances du peuple de Dieu, appelé par dérision Quakers, qui a souffert sous les pouvoirs changeants avant toi, par lesquels ils ont été emprisonnés, et sous lesquels ils ont souffert pour la cause de la bonne conscience, et pour avoir rendu témoignage à la vérité, telle qu'elle est en Jésus. 3173 personnes ont été emprisonnées au nom du Commonwealth, 73 personnes que nous savons le sont encore. 32 personnes sont mortes au temps du Commonwealth, et d'Olivier et Richard, les protecteurs, à cause d'emprisonnements cruels et durs, sur de la paille sale et dans des cachots. Il y a aussi eu 3068 personnes emprisonnées en ton nom depuis ton arrivée, par ceux qui pensaient s'attirer tes bonnes grâces en agissant ainsi. Outre cela, nos réunions sont chaque jour dispersées par des hommes munis de gourdins et d'armes, bien que nous nous réunissions paisiblement, selon la pratique du peuple de Dieu au temps primitif, et nos amis sont jetés à l'eau et piétinés jusqu'à ce que le sang jaillisse d'eux. Le nombre de ces abus se compte à peine. Or voici ce que nous te demandons, de mettre en liberté ceux qui gisent en prison au nom du Commonwealth et des deux protecteurs, et ceux qui gisent en ton propre nom, pour avoir dit la vérité pour la cause d'une bonne conscience, qui n'ont levé la main contre toi ni contre aucun homme, et que les réunions de nos amis, qui se rassemblent paisiblement dans la crainte de Dieu pour l'adorer, ne soient pas dispersées par des gens grossiers avec leurs gourdins, leurs épées et leurs bâtons. L'une des plus grandes causes pour lesquelles nous avons souffert autrefois, c'est que nous ne pouvions pas jurer aux protecteurs et à tous les gouvernements changeants, et maintenant nous sommes emprisonnés parce que nous ne pouvons pas prêter le serment d'allégeance. Or, si oui n'est pas oui et non non, pour toi et pour tous les hommes sur la terre, alors faisons-nous souffrir autant pour avoir rompu notre parole que d'autres souffrent pour avoir rompu un serment. Nous avons souffert toutes ces années dans nos vies et dans nos biens, sous ces gouvernements changeants, parce que nous ne voulions pas jurer, afin d'obéir à la doctrine du Christ qui commande de ne pas jurer du tout, Matt 5, 34, 36 et Jacques 5, 12, et cela nous le scellons de nos vies et de nos biens, et de notre oui et de notre non, selon la doctrine du Christ. Écoute ces choses, et considère-les dans la sagesse de ton Dieu, afin que par elles de telles actions soient arrêtées, car tu as le gouvernement et tu peux le faire. Nous désirons que tous ceux qui sont en prison soient mis en liberté, et que dorénavant ils ne soient pas emprisonnés pour la conscience et pour la cause de la vérité. Et si tu mets en doute l'innocence de leurs souffrances, que leurs accusateurs soient amenés devant toi, et nous produirons, si nécessaire, un compte rendu plus détaillé et complet de leurs souffrances. George Fox et Richard Robuthon. J'ai mentionné plus haut qu'en l'année 1650, je fus détenu prisonnier 6 mois dans la maison de correction de Derby, et que le geôlier était un homme cruel, qui s'était conduit très méchamment envers moi, il fut frappé en lui-même, les plaies et les terreurs du Seigneur tombant sur lui à cause de sa conduite. Cet homme, ayant été ensuite convaincu de la vérité, m'écrivit la lettre suivante. « Cher ami, ayant un messager si commode, je ne puis faire moins que de te rendre compte de mon état présent, me souvenant que, lors de mon premier éveil au sentiment de la vie et du principe intérieur, Dieu a bien voulu se servir de toi comme d'un instrument. De sorte que parfois je suis rempli d'admiration que cela soit venu par un tel moyen, c'est-à-dire que la Providence ait ordonné que tu sois mon prisonnier, afin de me donner mon premier véritable aperçu de la vérité. Bien des fois, cela m'a fait penser à la conversion du geôlier par les apôtres, ô heureux George Fox. Toi qui as le premier soufflé le souffle de vie au sein des murs de mon habitation. Mes pertes extérieures depuis lors sont telles que je suis devenu rien dans le monde, pourtant j'espère trouver que toutes ces légères afflictions, qui ne durent qu'un moment, produiront pour moi un poids de gloire éternelle d'une toute autre excellence. On m'a tout pris et maintenant, au lieu de garder une prison, j'attends plutôt le temps où je deviendrai moi-même prisonnier. Prie pour moi, afin que ma foi ne défaille pas, mais que je persévère jusqu'à la mort, afin de recevoir une couronne de vie. Je désire ardemment avoir de tes nouvelles et de ton état, ce qui serait pour moi un grand sujet de réjouissance. N'ayant rien d'autre pour le moment, sinon mon affection bienveillante pour toi et tous les amis chrétiens qui sont avec toi, je te salue en hâte et demeure, à toi en Christ Jésus. Thomas Charmant Derby, le 22 jour du 4 mois, 1662. Il y avait deux de nos amies emprisonnées par l'Inquisition à Malte, toutes deux femmes, Catherine Evans et Sarah Cheevers. On me dit que quelqu'un appelé Lord de Aubigny pouvait obtenir leur liberté, j'allai donc le voir, et l'ayant informé de leur emprisonnement, je lui demandai d'écrire au magistrat là-bas pour leur délivrance. Il me promit volontiers qu'il le ferait et dit que, si je revenais dans un mois, il me dirait qu'elles avaient été relâchées. J'y retournai vers ce temps-là, et il dit qu'il pensait que ses lettres s'étaient égarées, car il n'avait reçu aucune réponse, mais il promit d'écrire encore, et le fit, et elles furent mises en liberté. Avec ce grand personnage, j'eus beaucoup d'échanges sur la religion, et il confessa que Christ a éclairé tout homme venant au monde de sa lumière spirituelle, qu'il a goûté la mort pour tout homme, que la grâce de Dieu, qui apporte le salut, est apparue à tous les hommes, et qu'elle les instruirait et leur apporterait le salut, s'ils lui obéissaient. Je lui demandai alors, que feraient-ils, les papistes, de toutes leurs reliques et de leurs images, s'ils devaient reconnaître et croire en cette lumière, et recevoir la grâce pour les instruire et leur apporter le salut? Il dit que ces choses n'étaient que des politiques pour tenir le peuple dans la soumission. Il parlait avec beaucoup de liberté. Je n'avais jamais entendu un papiste en confesser autant. Or, bien que plusieurs à la cour commençassent à devenir bienveillants envers les amis, la persécution était très intense, et plusieurs amis moururent en prison. J'écrivis un petit écrit concernant les fondements et l'origine de la persécution. Ainsi, toutes les souffrances du peuple de Dieu en tous les âges ont eu pour cause qu'ils ne pouvaient s'unir aux religions nationales et aux cultes que les hommes avaient faits et établis, et qu'ils ne voulaient pas abandonner la religion de Dieu et son culte qu'il avait établi. Et l'on peut voir, à travers toutes les chroniques et histoires, que les prêtres se joignaient aux puissants et nations, les magistrats, les devins et les diseurs de bonne aventure, tous s'unissaient contre le peuple de Dieu et imaginaient des choses vaines contre eux dans leurs conseils. Quand les Juifs agirent méchamment, ils se retournèrent contre Moïse. Quand les rois juifs transgressèrent la loi de Dieu, ils persécutèrent les prophètes, comme on le voit dans les écrits des prophètes. Et quand Christ, la substance, vint, alors les Juifs persécutèrent Christ, ses apôtres et ses disciples. Et quand les Juifs n'avaient pas assez de pouvoir eux-mêmes pour persécuter selon leur volonté, ils firent appel aux gentils païens pour les aider contre Christ, et contre ses apôtres et ses disciples, qui étaient dans l'esprit et la puissance de Christ. George Fox, après être resté quelque temps à Londres, et m'être acquitté de ce qui pesait sur moi là, je partis à la campagne, ayant avec moi Alexandre Park et John Stubb, qui étaient récemment revenus d'Alexandrie en Égypte, comme il a été mentionné plus haut. Nous parcourûmes le pays visitant les réunions des amis, jusqu'à ce que nous arrivions à Bristol. Là, nous apprîmes que les officiers viendraient probablement disperser la réunion. Cependant, le premier jour, nous allâmes comme prévu à la réunion de Broadmead. Alexandre Park se leva le premier, et tandis qu'il parlait, les officiers vinrent et l'emmenèrent. Après son départ, je me levai dans la puissance éternelle de Dieu et déclarai la vérité éternelle du Seigneur Dieu, et la puissance céleste vint sur tous, et la réunion fut paisible le reste du temps et se termina en paix. Je restai jusqu'au premier jour suivant, visitant les amis et recevant leurs visites. Le matin du premier jour, plusieurs amis vinrent chez Edward Pio, où j'avais passé la nuit précédente, et tentèrent de me persuader de ne pas aller à la réunion ce jour-là, car, disaient-ils, les magistrats avaient menacé de me prendre et avaient établi des points de contrôle sur les routes. Je leur souhaitai d'aller de leur côté à la réunion, ne leur disant pas ce que j'avais l'intention de faire, mais je dis à Edward Pio que j'entendais y aller, et il envoya son fils me montrer le chemin depuis sa maison à travers les champs. En route, je rencontrai plusieurs amis qui firent ce qu'ils purent pour m'arrêter. « Quoi, dit l'un, vas-tu entrer dans la gueule de la bête ?»« Vas-tu entrer dans la gueule du dragon ?» dit un autre, mais je les écartai et continuai. Quand j'arrivai à la réunion, Margaret Thomas parlait. Lorsqu'elle eut fini, je me levai, je vis chez les amis une inquiétude et une crainte pour moi, mais la puissance du Seigneur, dans laquelle je déclarais, chassa bientôt leur crainte. La vie jaillit, et nous eûmes une réunion céleste et glorieuse. Après m'être acquitté, de la part du Seigneur, de ce qui pesait sur moi envers la réunion, je fus poussé à prier, et après la prière à me lever de nouveau et à dire aux amis, « Maintenant vous pouvez voir qu'il y a un Dieu en Israël qui peut délivrer. » C'était une très grande réunion, bien pleine et très chaude, mais la vérité dominait tout, et la vie était élevée qui portait à travers tout, et la réunion se termina en paix. Les officiers et les soldats avaient dispersé une autre réunion, ce qui leur avait pris du temps, de sorte que notre réunion fut terminée avant qu'ils n'arrivent. Mais j'appris ensuite qu'ils étaient dans une grande rage parce qu'ils m'avaient manqué, car on les avait entendus dire auparavant l'un à l'autre, « Je te garantis que nous l'aurons », mais le Seigneur les en empêcha. J'allai chez John Riley, où beaucoup d'amis vinrent me voir, se réjouissant et bénissant Dieu pour notre délivrance. Le soir, j'eus une belle réunion, fraîche et vivante, dans la maison d'un ami de l'autre côté de l'eau, où nous fûmes grandement rafraîchis dans le Seigneur. Après cela, je restai la plus grande partie de cette semaine à Bristol, et chez Edward Pio. Edward avait été tellement abaissé et affaibli par une maladie que, lorsque j'arrivai, on le croyait mourant, mais il plut au Seigneur de le relever, de sorte qu'avant mon départ sa maladie le quitta, et il se porta très bien. Après avoir été deux premiers jours à la réunion de Broadmead, et sentant mon esprit dégagé de Bristol, j'allai le premier jour suivant à une réunion dans la campagne, non loin de là. Et après la réunion, comme des amis de Bristol me le dirent, les soldats avaient entouré la maison de réunion à Bristol, puis étaient entrés en disant « Cette fois, nous serons sûrs de l'avoir, mais ne me trouvant pas là, ils furent dans une grande rage, et gardèrent les amis dans la maison de réunion la plus grande partie de la journée avant de les laisser rentrer chez eux, et leur demandèrent « De quel côté était-il parti, et comment pourrions-nous le poursuivre ?»« Car le maire, disait-il, aurait aimé me parler. J'eus une vision d'un grand chien mastif qui aurait voulu me mordre, mais je mis une main au-dessus de ses mâchoires et l'autre au-dessous, et je déchirai ses mâchoires en morceaux. » Ainsi, le Seigneur, par sa puissance, mit leur puissance en pièces et me fraya un chemin pour leur échapper. Puis je traversai le pays, visitant les amis dans le Wiltshire et le Berkshire, jusqu'à ce que j'arrive à Londres, ayant de grandes réunions parmi les amis en chemin. La puissance du Seigneur dominait tout, et ce fut un temps béni pour la diffusion de sa vérité glorieuse. C'est en effet la puissance immédiate du Seigneur qui me préserva de leurs mains à Bristol et au-dessus des têtes de tous nos persécuteurs. Et le Seigneur seul est digne de toute la gloire, lui qui m'a soutenu et préservé pour l'amour de son nom et de sa vérité. Je ne restai pas longtemps à Londres, étant attiré en esprit à visiter les amis vers le nord, jusqu'au Leicestershire. John Stubb était avec moi. Nous y voyageâmes, ayant des réunions parmi les amis en chemin, et à Skegby nous eûmes une grande réunion. Nous arrivâmes à Barnet Hill, où vivait un capitaine Brown, baptiste, mais dont la femme était convaincue de la vérité. Après l'adoption, par le Parlement de l'acte pour « disperser les réunions », le capitaine Brown craint que sa femme n'aille aux réunions et ne soit jetée en prison. Il quitta donc sa maison à Barrow et prit un logement dans ses collines pour se cacher, disant « Ma femme n'ira pas en prison ». Et comme c'était un lieu libre, beaucoup d'autres s'y réfugièrent avec lui, y compris des prêtres. Bien que cet homme fût en lieu sûr, parce qu'il ne voulait ni se tenir dans la vérité, ni permettre à sa femme convaincue de s'y tenir, le Seigneur, le sachant, fit peser lourdement sa main sur lui pour son infidélité. Si bien qu'il fut cruellement tourmenté et sévèrement jugé en lui-même pour avoir fui et entraîné sa femme dans ce lieu retiré. Nous allâmes voir sa femme, et en entrant dans la maison, je lui demandai comment il allait. « Comment je vais ?» dit-il, « les plaies et la vengeance de Dieu sont sur moi. Je suis un proscrit, un Caïn. Dieu peut chercher un témoin en moi et en ceux qui me ressemblent, car si tous n'étaient pas plus fidèles que moi, Dieu n'aurait plus de témoins sur la terre. » Dans cet état, il y vécut de pain et d'eau, et pensa que c'était trop bon pour lui. À la fin, il rentra chez lui avec sa femme, dans sa propre maison à Barrow, où ensuite il fut convaincu de la vérité éternelle de Dieu, dans laquelle il mourut. Peu avant sa mort, il dit que, bien qu'il n'eût pas rendu témoignage à la vérité dans sa vie, il rendrait témoignage dans sa mort et serait enterré dans son verger, et ainsi fut-il. Il fut un exemple pour tous les baptistes fuyards au temps de la persécution, qui ne pouvaient pas eux-mêmes supporter la persécution, mais nous persécutaient quand ils avaient le pouvoir. De Barnet Hill, nous vînmes à Swannington, dans le Leicestershire, où William Smith et quelques autres amis vinrent à moi, mais ils s'en allèrent vers la nuit, me laissant dans la maison d'un ami à Swannington. La nuit, tandis que j'étais assis dans le hall, parlant à une veuve et à sa fille, Lord Beaumont arriva avec une troupe de soldats, qui frappèrent de leurs épées sur la porte et se précipitèrent dans la maison, l'épée et le pistolet à la main, criant « Éteignez les chandelles et fermez les portes ». Puis ils saisirent les amis dans la maison et demandèrent « Y a-t-il d'autres personnes dans la maison ?» Les amis leur dirent qu'il y avait encore un homme dans le hall. L'un des amis, venu du Derbyshire, s'appelait Thomas Fock. Après que ce soi-disant Lord Beaumont eut demandé tous leurs noms, il dit à l'un de ses hommes d'inscrire le nom de cet homme comme Thomas Fox. L'ami dit non, que son nom n'était pas Fox mais Fock. Pendant ce temps, quelques soldats vinrent et me firent sortir du hall auprès de Beaumont. Il me demanda mon nom. Je lui dis que je m'appelais George Fox et que j'étais bien connu sous ce nom. « Oui, dit-il, vous êtes connu dans le monde entier ?» Je dis que je n'étais pas connu pour le mal mais pour le bien. Alors il mit les mains dans mes poches pour les fouiller et en tira mon étui à peine. Puis il ordonna à l'un de ses officiers de chercher encore des lettres, comme il le prétendait. Je lui dis que je n'étais pas porteur de lettres, et je lui demandai pourquoi il venait parmi un peuple paisible avec épée et pistolet, sans constable, contrairement à la proclamation du roi et aux récents actes. Car il ne pouvait pas dire qu'il y avait une réunion, puisque je ne faisais que parler avec une pauvre veuve et sa fille. En raisonnant ainsi avec lui, il se calma quelque peu, pourtant, faisant venir les constables, il leur donna la charge de nous garder cette nuit-là, et leur dit de nous amener devant lui le lendemain matin. En conséquence, les constables postèrent cette nuit-là une garde de gens du bourg sur nous et nous amenèrent le lendemain matin à sa maison, à environ 1 mile de Swannington. Quand nous comparûmes devant lui, il nous dit que nous nous réunissions contrairement à l'acte. Je lui demandai de nous montrer l'acte. « Pourquoi, dit-il, vous l'avez dans votre poche ?» Je lui dis qu'il ne nous avait pas trouvés en réunion. Alors il demanda si nous voulions prêter les serments d'allégeance et de suprématie. Je lui dis que je n'avais jamais prêté aucun serment de ma vie, ni engagement, ni le covenant. Pourtant, il essaya encore de nous imposer le serment. Je lui demandai alors de nous montrer le serment, afin que nous puissions voir si nous étions les personnes à qui il devait être proposé, et s'il n'était pas destiné à découvrir des dicides papistes. À la fin, il apporta un petit livre, mais nous demandâmes le livre des statuts. Il ne voulut pas nous le montrer, mais fit établir un mandat d'écrou, qui mentionnait que nous devions tenir une réunion. Avec ce mandat, il nous remit au constable pour nous conduire à la prison de Leicester. Mais lorsque les constables nous eurent ramenés à Swannington, comme c'était le temps des moissons, il était difficile de trouver quelqu'un pour nous accompagner. Les gens hésitaient à conduire leurs voisins en prison, surtout en une période si chargée. Ils nous auraient donné notre mandat pour que nous l'emportions nous-mêmes à la prison, car il était d'usage que les constables donnent aux amis leur propre mandat et qu'ils les portent eux-mêmes au geôlier. Mais nous leur dîmes que, bien que nos amis l'eussent parfois fait autrefois, nous ne prendrions pas ce mandat, mais que nous serions escortés jusqu'à la prison. Finalement, ils engagèrent un pauvre ouvrier, qui, bien qu'engagé pour cela, ne voulait pas y aller. Ainsi, nous cinq, nous traversâmes le pays à cheval jusqu'à Leicester. Certains tenaient leur Bible ouverte à la main, déclarant la vérité au peuple tandis que nous chevauchions dans les champs et à travers les bourgs, et leur disant « Nous sommes des prisonniers du Seigneur Jésus-Christ, allant souffrir des liens pour l'amour de son nom et de sa vérité. » Une amie tenait son rouet sur ses genoux pour filer en prison, et le peuple en était grandement touché. À Leicester, nous allâmes dans une auberge. Le maître de l'auberge semblait peiné que nous allions en prison, et, étant lui-même commissaire, il fit appeler des avocats de la ville pour le conseiller. Il voulait reprendre le mandat et nous garder dans son auberge, et ne pas nous laisser aller en prison. Mais je dis aux amis que cela coûterait une grande somme de rester à l'auberge. Et comme beaucoup d'amis et de gens viendraient nous visiter, il pourrait lui être difficile de supporter que nous tenions des réunions dans sa maison. Je dis aussi que nous avions déjà beaucoup d'amis en prison et que nous préférions être avec eux. Nous fîmes donc savoir à cet homme que nous apprécions sa bonté et nous continuâmes vers la prison, le pauvre homme qui nous y avait conduit remettant au geôlier le mandat et nos personnes. Ce geôlier avait été un homme très méchant et cruel. À une occasion antérieure, il s'était crêlé avec 6 ou 7 amis qui avaient été en prison avant nous et les avait poussés dans le cachot parmi les criminels où ils étaient si serrés qu'ils avaient à peine la place de s'étendre. Nous restâmes toute cette journée dans la cour de la prison et demandâmes au geôlier de nous donner un peu de paille. Il fut bourru et répondit, « Vous ne ressemblez pas à des hommes qui coucheront sur de la paille. » Au bout d'un moment, William Smith vint à moi, et comme il connaissait la prison, je lui demandai quelle chambre il y avait dans la maison, et dans quelle chambre on mettait d'ordinaire les amis avant de les jeter au cachot. Je lui demandai aussi si le maître dans la maison était le geôlier ou sa femme. Il me dit que c'était la femme, et bien qu'elle fût boiteuse et incapable de marcher sans béquille, elle était le plus souvent assise dans sa chaise, d'où elle frappait son mari lorsqu'il venait à sa portée, s'il n'avait pas fait ce qu'elle voulait. Je considérais que beaucoup d'amis viendraient probablement nous visiter, et que si nous avions une chambre à nous, il serait mieux pour eux de me parler et pour moi de leur parler, selon les occasions. Je demandai donc à William Smith de parler avec la femme et de lui conseiller que, si elle voulait nous donner une chambre et permettre à nos amis de sortir du cachot, en nous laissant lui donner ce que nous voudrions, ce pourrait être mieux pour elle. Il y alla, et après quelques raisonnements avec elle, elle y consentit, et nous fûmes conduits dans une chambre. Puis on nous dit que le geôlier ne nous permettrait pas qu'on apporte en prison quelques boissons de la ville, mais que la bière que nous boirions devait être achetée chez lui. Je leur dis que je remédierais à cela s'il y était d'accord, car nous prendrions chaque jour un seau d'eau et un peu d'absinthe, et cela nous suffirait. Ainsi, nous ne prendrions pas de sa bière, et il ne pourrait pas nous refuser l'eau. Avant notre arrivée, les quelques amis prisonniers se réunissaient le premier jour, et si l'un d'eux était poussé à prier le Seigneur, le geôlier montait avec sa grande trique à la main, son chien mastif à ses talons, les tirait vers le bas par les cheveux et les frappait de son bâton, mais lorsqu'il frappait les amis, le chien mastif, au lieu de se jeter sur eux, lui arrachait le bâton des mains. Après notre arrivée, lorsque le premier jour suivant vint, je demandai à l'un de mes compagnons de captivité de descendre un tabouret, de le placer dans la cour, de prévenir les débiteurs et les criminels qu'il y aurait une réunion dans la cour, et de dire que quiconque désirait entendre déclarer la parole du Seigneur était bienvenu d'y venir. Ainsi les prisonniers se rassemblèrent dans la cour, et nous descendîmes et eûmes une réunion très précieuse, dans laquelle le geôlier n'intervint pas. Ainsi, chaque premier jour, nous eûmes une réunion aussi longtemps que nous restâmes en prison, et plusieurs personnes de la ville et de la campagne y assistèrent aussi. Beaucoup furent convaincus, et certains reçurent là la vérité du Seigneur, et se sont tenus depuis lors comme témoins fidèles. Quand les sessions eurent lieu, nous fûmes amenés devant les juges de paix, avec d'autres amis qui avaient été envoyés en prison pendant que nous y étions, au nombre d'environ 20. Conduits au tribunal, le geôlier nous mit à l'endroit où se tenaient les voleurs, et alors quelques juges de paix commencèrent à nous proposer les serments d'allégeance et de suprématie. Je leur dis que je n'avais jamais prêté aucun serment de ma vie, et ils savaient que nous ne pouvions pas jurer, parce que Christ et l'apôtre Jacques avaient interdit de jurer, ils ne nous le proposaient donc que comme un piège. Nous leur dîmes que, s'ils pouvaient prouver qu'après que Christ et l'apôtre eurent interdit de jurer, ils aient jamais commandé aux chrétiens de jurer, nous prêterions ces serments, sinon, nous étions résolus à obéir au commandement du Christ et à l'exhortation de l'apôtre. Ils dirent, « Il faut que vous prêtiez le serment, afin de manifester votre allégeance au roi. » Je leur dis que j'avais autrefois été envoyé prisonnier par le colonel Acker, depuis cette ville jusqu'à Londres, sous prétexte que je tenais des réunions pour comploter le retour du roi Charles. Je leur demandai aussi de lire notre mandat d'écrou, qui exposait la cause de notre détention à venir, à savoir que nous devions tenir une réunion. Je dis que celui qu'on appelait Lord Beaumont, par cet acte, ne pouvait pas nous envoyer en prison, à moins que nous eussions été pris dans une réunion et trouvés être de telles personnes que l'acte vise. C'est pourquoi nous demandâmes qu'ils lisent le mandat et voient combien nous étions injustement emprisonnés. Ils ne voulurent pas tenir compte du mandat, mais appelèrent un jury et nous inculpèrent pour refus de prêter les serments d'allégeance et de suprématie. Quand le jury eut prêté serment et reçu ses instructions, comme il sortait, quelqu'un qui avait été échevin de la ville leur dit « Ayez bonne conscience », et l'un des jurés, homme chagrin, dit au juge de paix que cet échevin avait offensé le jury. Ils le firent donc appeler et lui proposèrent aussi le serment qu'il prêta. Pendant que nous nous tenions à l'endroit où se tenaient d'ordinaire les voleurs, un voleur à la tire avait mis la main dans les poches de plusieurs amis. Les amis le déclarèrent au juge de paix et leur montrèrent l'homme. Les juges de paix le firent comparaître devant eux, et à l'examen il ne put le nier, pourtant ils le relâchèrent. Il ne s'écoula pas longtemps avant que le jury ne revienne et ne rapporte un verdict de culpabilité, et après quelques paroles, les juges de paix se concertèrent à voix basse et dirent au geôlier de nous reconduire en prison. Mais la puissance du Seigneur dominait sur eux, comme sa vérité éternelle, que nous déclarions hardiment au milieu d'eux. Il y avait une grande foule de gens à l'extérieur du tribunal, et la plupart nous soutenaient, de sorte que le crieur et les huissiers hésitaient à faire rentrer de nouveau les gens au tribunal. Nous déclarâmes la vérité en parcourant les rues jusqu'à la prison, car les rues étaient pleines de monde. Quelque temps après que nous fûmes remontés dans notre chambre en prison, le geôlier vint à nous et voulut que tous ceux qui n'étaient pas prisonniers s'en aillent. Quand ils furent partis, il dit « Messieurs, il plaît au tribunal que vous soyez tous mis en liberté, excepté ceux qui sont ici pour n'avoir pas payé les dîmes, et vous savez qu'il m'est dû des frais, mais je vous laisse me donner ce que vous voudrez. » Ainsi, soudainement, nous fûmes tous mis en liberté, et nous nous consacrâmes chacun à nos services. Léonard Fell était venu là pour nous voir, il repartit donc avec moi à Swannington. Je reçus de sa part une lettre adressée au juge de paix aux sessions. Les amis avaient sollicité Lord Hastings qui, ayant appris mon emprisonnement, avait écrit de Londres au juge de paix aux sessions en leur enjoignant de me mettre en liberté. Je n'avais pas encore remis cette lettre au juge de paix, mais s'ils eurent connaissance de sa volonté par une autre voie, ce qui les fit nous relâcher si soudainement, je ne le sais. Mais je portai cette lettre à l'homme qu'on appelait Lord Beaumont, celui qui nous avait envoyés en prison, et lorsqu'il l'eut ouverte et lue, il parut fort troublé et à la fin devint un peu plus humble. Mais il nous menaça encore. Si nous avions d'autres réunions à Swannington, il les disperserait et nous renverrait en prison. Malgré ces menaces, nous allâmes à Swannington et y tînmes une réunion avec les amis, et il ne vint pas, ni n'envoya des hommes pour la disperser. De Swannington, nous vîmes à Twycross, où vivait ce grand personnage que le Seigneur Dieu avait relevé de sa maladie en l'année 1649, dont le serviteur s'était jeté sur moi l'épée tirée pour me faire du mal. Lui et sa femme vinrent me voir. De là, nous voyageâmes à travers le Warwickshire, où nous eûmes de magnifiques réunions. Puis nous allâmes dans le Northamptonshire et le Bedfordshire, visitant les amis jusqu'à ce que nous arrivions à Londres. Je ne restai pas longtemps à Londres, mais allai dans l'Essex puis jusqu'au Norfolk, ayant de grandes réunions. Quand j'arrivai chez le capitaine Lawrence à Norwich, il y avait une grande menace de trouble, mais la réunion fut paisible. Passant de là à Sutton et entrant dans le Cambridgeshire, j'appris la mort d'Edward Burrough. Et sachant quelle grande douleur et détresse ce serait pour les amis de se séparer de lui, j'écrivis les lignes suivantes pour maintenir et affermir leurs esprits. Amis, soyez tranquilles et paisibles dans vos propres conditions et établis dans la semence de Dieu, qui ne change pas, afin que, en cela, vous puissiez sentir parmi vous le cher Edward Burrough dans la semence, dans laquelle et par laquelle il vous a engendrés à Dieu, auprès de qui il est. Et que dans la semence vous puissiez tous le voir et le sentir, là où est l'unité avec lui dans la vie, et ainsi jouir de lui dans la vie qui ne change pas, laquelle est invisible. George Fox note, quand Burrough était malade et mourant en prison de la fièvre des prisons, probablement le typhus, transmis par l'époux dans des conditions froides et insalubres. Il dit s'il avait été ne serait-ce qu'une heure avec moi, il aurait été guéri. Burrough était un prédicateur si efficace qu'on le surnomma Boanerges, le même nom que Jésus donna à Jean et à son frère Jacques, signifiant fil du tonnerre, vaillant. Une courte partie de son merveilleux ministère, y compris sa mort, est disponible sur ce site. De là, je passai à Littleport et à l'île d'Ely, où un ancien maire et sa femme, ainsi que la femme de l'actuel maire de Cambridge, vinrent à la réunion. En voyageant dans le Lincolnshire et le Huntingdonshire, j'arrivai chez Thomas Parnell, où le maire de Huntingdon vint me voir, il était très affectueux. De là, je gagnai le pays des Fens, où nous eûmes de grandes réunions paisibles. Pendant que j'étais dans ce pays, une si grande inondation s'y produisit qu'il était dangereux de sortir, pourtant nous sortîmes et allâmes à Lynn, où nous eûmes une réunion bénie. Le lendemain matin, j'allai visiter quelques prisonniers, puis je retournai à l'auberge et partis à cheval. Comme je sortais de la cour, il semble que les officiers vinrent fouiller l'auberge pour me chercher. Je n'en sus rien alors, sinon que je sentis un grand fardeau s'abattre sur moi tandis que je quittais la ville, jusqu'à ce que je fusse hors des portes. Des amis vinrent après moi, et lorsqu'ils me rattrapèrent, ils me dirent que, dès que j'étais sorti de la cour de l'auberge, les officiers étaient venus et avaient fouillé l'auberge pour me trouver. Ainsi, par la bonne main du Seigneur, j'échappais à leurs mains cruelles. Après cela, nous traversâmes la campagne, visitant les amis dans leurs réunions. La puissance du Seigneur nous porta au-dessus des esprits persécuteurs et à travers bien des dangers, et sa vérité se répandit et grandit, et les amis y furent affermis, louange et gloire à son nom à jamais. Après avoir traversé le Norfolk, le Suffolk, l'Essex et le Hertfordshire, nous revînmes à Londres, où je demeurai quelque temps, visitant les amis dans leur réunion, qui était très grande, et la puissance du Seigneur dominait sur tout. Au bout d'un certain temps, je quittai de nouveau la ville et voyageai dans le Kent, ayant Thomas Brigg avec moi. Nous allâmes à Ashford, où nous eûmes une réunion paisible et très bénie. Le premier jour de la semaine, nous eûmes une très bonne réunion, paisible à Cranbrook. Puis nous allâmes à Tanterden et y tînmes une réunion, à laquelle des amis vinrent de divers endroits, et beaucoup d'autres personnes vinrent aussi et furent atteintes par la vérité. Quand la réunion fut terminée, je marchai avec Thomas Brigg dans une rue étroite pendant qu'on préparait nos chevaux, et tournant la tête, je vis venir un capitaine accompagné d'une grande compagnie de soldats, mèches allumées et mousquets en main. Quelques soldats vinrent vers Thomas et moi et dirent « Nous devons aller à leur capitaine ». Lorsqu'ils nous eurent conduits devant lui, il demanda « Où est George Fox, lequel est-ce ?» Je dis « C'est moi ». Alors il s'approcha de moi, parut quelque peu saisi, et dit « Je vais vous mettre sous la garde des soldats ». Il appela donc les soldats pour qu'ils me prennent. Puis il fit prendre Thomas Briggs et le maître de maison, avec beaucoup d'autres, mais la puissance du Seigneur était puissamment sur eux tous. Ensuite il revint vers moi et dit « Je dois vous emmener avec moi en ville », et il se conduisit assez civilement, ordonnant aux soldats d'amener les autres derrière nous. En marchant, je lui demandai pourquoi ils agissaient ainsi, car je n'avais pas vu tant d'agitation depuis longtemps, et je lui demandai d'être civil envers ses voisins paisibles. Quand nous fûmes arrivés en ville, ils nous conduisirent dans une auberge qui était la maison du geôlier. Au bout d'un moment, le maire de la ville, ce capitaine et le lieutenant, qui étaient juges de paix, vinrent ensemble et me demandèrent pourquoi j'étais venu là pour provoquer un trouble. Je leur dis que je n'étais pas venu pour provoquer un trouble et que je n'avais causé aucun trouble depuis mon arrivée. Ils dirent qu'il y avait une loi contre les réunions des Quakers, légiférée uniquement contre eux. Je leur répondis que je ne connaissais aucune telle loi. Alors ils produisirent l'acte fait contre les Quakers et d'autres. Je leur dis que cela visait ceux qui étaient une terreur pour les sujets du roi, qui étaient des ennemis et tenaient des principes dangereux pour le gouvernement, et que, par conséquent, cela ne nous concernait pas. Car nous tenions la vérité, et nos principes n'étaient pas dangereux pour le gouvernement, et nos réunions étaient paisibles, comme ils le savaient, eux qui savaient que leurs voisins étaient un peuple paisible. Ils me dirent « Vous êtes un ennemi du roi ». Je répondis que nous aimions tous les hommes, n'étions ennemis de personne, et que, pour ma part, j'avais été jeté dans le cachot de Derby à l'époque du combat de Wooste, parce que je ne voulais pas prendre les armes contre lui. Plus tard, le colonel Hacker m'avait emmené à Londres comme conspirateur pour ramener le roi Charles, et j'avais été gardé prisonnier à Londres jusqu'à ce qu'Olivier me rendît la liberté. Ils me demandèrent si j'avais été emprisonné au temps de l'insurrection. Je dis que oui, j'avais été emprisonné alors et depuis, et avais été mis en liberté par l'ordre même du roi. J'ouvris l'acte devant eux, leur montrai la récente déclaration du roi, leur donnai des exemples d'autres juges de paix, et leur dis aussi ce que la Chambre des Lords en avait dit. Je leur parlai aussi de leurs propres conditions, les exhortant, dans la crainte de Dieu, à être pleins d'égards envers leurs voisins qui craignent Dieu, et à se rendre attentifs à la sagesse de Dieu par laquelle toutes choses ont été faites et créées, afin qu'ils en viennent à la recevoir, à être réglés par elle, et par elle à régler toutes choses pour la gloire de Dieu. Ils exigèrent de nous une caution pour notre comparution aux assises, mais, plaidant notre innocence, nous refusâmes de donner caution. Ensuite, ils voulurent que nous promettions de ne plus venir là, mais nous demeurâmes aussi nets sur ce point. Quand ils virent qu'ils ne pouvaient pas nous amener à leurs conditions, ils nous dirent « Vous verrez que nous serons civils avec vous, car c'est le bon plaisir du maire que vous soyez tous mis en liberté ». Je leur dis que leur civilité était noble, et ainsi nous nous séparâmes, retour suivant.